pas bon pour la santé.
Absolument. Et peut-être faire la promotion de mon spectacle, le 14 mai à Arcueil.
Ah bah voilà, on l'avait pas dit encore. Allez, merci Thomas Croisière. Il est 7h sur France Inter.
Le journal Laurence Thomas, bonjour Laurence.
Bonjour Ali, bonjour à tous. Rafah, toujours suspendu à une opération israélienne terrestre, et ses premiers témoignages de réservistes revenus de l'enclave palestinienne, témoignages d'un militaire israélien qui décrit les horreurs vues à Gaza. Les verdicts de printemps des agences de notation Moody's et Fitch sur la dette souveraine française. Ces notes sont attendues ce soir. L'aggravation des finances publiques laisse prévoir des commentaires peu flatteurs. L'augmentation des violences chez les jeunes, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, favorable à l'instauration d'un couvre-feu qui touche les mineurs. Et puis la folie Taylor Swift, où quand les fans de la chanteuse font du pub londonien Black Dog leur nouveau lieu de pèlerinage.
À suivre sur France Inter ce matin, le discours de la Sorbonne du président de la République hier était largement économique. Analyse dans le débat éco à 8h moins le quart avec Dominique Saut et Thomas Porcher. Et puis à 8h20, voyage avec un ingénieux Hidalgo, un chevalier idéaliste monument de la littérature mondiale. William Marx, professeur au Collège de France, est notre guide pour un été avec Don Quichotte. Son livre à paraître la semaine prochaine.
France Inter. Un témoignage rare dans ce journal ce matin, celui d'un réserviste israélien de retour du territoire palestinien. Rappelons que depuis le 7 octobre, selon l'armée israélienne, plus de 600 soldats de Tsahal ont été tués, dont près de 260 lors de l'offensive terrestre dans la bande de Gaza. Des soldats déterminés à démanteler le Hamas et qui, de retour, commencent à témoigner de ce qu'ils ont vu dans l'enclave palestinienne. Une parole recueillie par nos envoyés spéciaux, Omar Waman et Eric Audra.
Daniel, la trentaine a passé un mois dans la bande de Gaza. Ce qui l'a frappé, c'est l'ampleur des destructions.
Le paysage est détruit. Il n'y a pas une fenêtre qui tient. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de maisons qui sont totalement détruites. Une espèce de chaos.
Un chaos généralisé et de nombreuses victimes des frappes de l'armée israélienne.
J'ai vu en effet des cadavres, visiblement des gens qui avaient été tués lors de bombardements, qui étaient dans les décombres. Personne n'est préparé à quelque chose d'une telle ampleur en termes de destruction, en termes de cadavres dans la bande de Gaza.
Ce franco-israélien a également été témoin de la souffrance des habitants de l'enclave palestinienne.
En effet, la population civile palestinienne qu'on voit, elle est dans un état de désespoir assez avancé. Moi, personnellement, je ne suis pas de ceux qui sont contre l'entrée d'aide humanitaire. Il faut, au contraire, faire entrer l'aide humanitaire en masse. Et je pense même que cette aide humanitaire, elle est une condition pour qu'Israël continue son opération dans la bande de Gaza.
Après cette mission, Daniel avoue qu'il a besoin, comme des milliers de soldats de l'État hébreu, d'une assistance psychologique.
Oui, c'est sûr que ça nous travaille. Je pense qu'il y a des soldats qui en ont pour l'instant plus besoin que moi. Quand la situation se calmera un petit peu, on s'en occupera aussi.
Ce que souhaite par-dessus tout ce soldat qui se dit de gauche, c'est que les responsables du fiasco sécuritaire du 7 octobre rendent des comptes.
Omar Waman et Eric Audra en Israël pour France Inter. Dans la bande de Gaza, où 2 400 000 habitants du territoire assiégé sont confrontés à un désastre humanitaire, les États-Unis annoncent avoir commencé la construction d'une jetée, ce qui permettra aux navires militaires ou civils de déposer leur cargaison d'aide humanitaire. Annonce de Washington, alors qu'aux États-Unis, le mouvement de protestation contre la guerre à Gaza se généralise. De Los Angeles à Atlanta, d'Austin à Boston, le mouvement d'étudiants américains pro-palestiniens grossit d'heure en heure. Dans le siège des actions menées dans des universités américaines, des dizaines d'étudiants de Sciences Po Paris ont décidé la nuit dernière d'occuper de nouveau un de leurs bâtiments en soutien aux Gazaouis.
C'est l'heure du bulletin de notes en économie pour la France.
Le coup près va tomber ce soir. C'est aujourd'hui donc que Fitch et Moody's, deux des principales agences de notation, vont rendre leur verdict sur la dette souveraine française. Les dernières données n'incitent pas à l'optimisme. 3 000 milliards d'euros de dette. Autant dire que les notes et les commentaires pourraient être rudes. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
Alors expliquez-nous tout d'abord comment ces notes sont établies.
Alors il y a bien sûr tous les chiffres classiques d'une analyse financière, déficit, taux d'endettement, croissance, PIB, rapport entre charges d'intérêt et excédent budgétaire. Toutes les courbes sont scrutées, analysées, comparées. Le cadre institutionnel est aussi examiné de près. La capacité d'un régime à mener à bien une politique économique, loin des promesses de campagne. Mais il y a aussi un côté plus humain, pourrait-on dire, avec des rencontres entre agences de notation et dirigeants. Bruno Le Maire et les équipes de Bercy ont ainsi reçu ces dernières semaines les représentants des agences américaines pour les convaincre de l'efficacité des réformes mises en place pour redresser les comptes de la France.
Et que doit-on penser, Agnès, des agences, des notations de ces agences sont-elles exemptes de tout reproche ?
Non, et d'ailleurs les critiques sont nombreuses depuis 2008 et la crise des subprimes qu'elles n'ont pas vu venir. Autre question, si elles contrôlent les finances des entreprises et des pays, par qui elles sont-elles contrôlées ? Par ailleurs, leurs analyses ne sont pas toujours les mêmes. Fitch a récemment dégradé la note de la France quand Standard & Poor's a maintenu son double A. Et puis le monde est confronté depuis la crise Covid à une multiplication inattendue de risques émergents, aléas climatiques, cyberattaques, crypto-monnaies, rupture brutale de chaînes d'approvisionnement, crise géopolitique, des risques difficiles à anticiper et susceptibles d'avoir un lourd impact financier.
Agnès Soubiran, pour le ministre de l'Intérieur, les couvre-feux pour mineurs décrétés par certains maires sont une bonne idée. À Béziers, Nice ou encore au Penn-Mirabeau, je les soutiens et les préfets les soutiendront, réagit Gérald Darmanin, qui lui-même a ordonné un tel couvre-feu à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe contre la délinquance. Et il n'a pas mâché ses mots hier soir chez nos confrères de France 3 Occitanie.
D'abord, je voudrais dire qu'il n'est pas normal que des enfants, des adolescents, des mineurs soient dans la rue à minuit, 1h, 2h du matin. Ils doivent être chez eux, ils doivent dormir et ils doivent aller le lendemain à l'école. Donc d'abord, lorsqu'il y a ce genre de choses, c'était le cas en Guadeloupe à Pointe-à-Pitre où je me suis rendu, ça peut être le cas dans d'autres parties du territoire national, je suis favorable au couvre-feu qui touche les mineurs. Les mineurs, ça doit être chez eux, chez leurs parents. Et les maires qui ont la compétence pour prendre des arrêtés, en effet comme l'État, pour empêcher ces mineurs d'être dehors, notamment les moins de 13 ans, je les soutiens. Je les soutiens et les préfets de la République les soutiendront. Il faut évidemment que le tribunal administratif, s'il est saisi, puisse voir qu'il n'y ait pas d'excès de pouvoir, mais les maires qui le font sont des gens tout à fait raisonnables. J'ai entendu ce que disait le maire de Béziers. Moi, je veux dire que je soutiens ces initiatives, même si évidemment, ce n'est pas à l'État de se substituer à tous les territoires et à toutes les communes.
Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, chez nos confrères de France 3 Occitanie. Clap de fin de la Convention citoyenne sur la fin de vie. Place maintenant au débat parlementaire, puisque le projet de loi fin de vie est désormais entre les mains des députés. À l'occasion de la 10e et dernière séance de la Convention qui s'achèvera demain, Emmanuel Macron va rencontrer ce soir les 184 citoyens tirés au sort qui avaient planché sur le sujet et l'occasion de conclure cette expérience de démocratie citoyenne. Témoignage de Martial Breton, l'un des tirés au sort. Il est au micro d'Alice Cachaner.
Dans les membres, on est pas mal à se dire que c'est la vraie fin. Moi, je trouve que la voix de la Convention a été entendue, ou en tout cas, le projet de loi suit, on va dire, la même philosophie, c'est-à-dire les deux piliers, la question des soins palliatifs et la question de l'aide à mourir ou aide active à mourir. Nous, on invite évidemment les parlementaires à avoir la même qualité des débats que ce qu'on a pu voir dans la Convention. C'est possible, hein, on peut débattre de sujets aussi complexes et intimes avec respect, bienveillance et écoute. Ce qu'on attend maintenant, c'est que ça ne prenne pas trop de temps dans le débat parlementaire. Il n'y a pas besoin que ça prenne 1 ou 2 ans. Et il faut aussi le mettre en considération des personnes qui aujourd'hui ont besoin de cette loi, qui sont dans des situations de fin de vie. Et c'est pour ça que chaque mois, chaque année supplémentaire, c'est aussi un manque de considération pour ces personnes.
Restera pas en France. Emmanuel Macron va proposer à Joe Biden, le président américain, de rester davantage en France après les cérémonies du 80e anniversaire du débarquement en Normandie. L'Élysée espère sa présence les 7 et 8 juin, veille de l'élection européenne. Information du Parisien confirmée par le service politique de France Inter. Le format de cette visite n'est pas encore défini. Dans tous les cas, après sa venue à Omaha Beach, le président américain est attendu en Italie. Ce sera pour le sommet du G7 la semaine suivante, 13-15 juin.
Il est 7h08 sur France Inter. Les cliniques privées promettent un bras de fer avec le gouvernement.
La FHP, la Fédération de l'hospitalisation privée, annonce une grève totale à partir du 3 juin et jusqu'au 5. Grève renouvelable. Consciente des contraintes budgétaires, elles veulent non pas plus d'argent, mais une meilleure répartition de l'enveloppe entre public et privé. L'exécutif a choisi d'augmenter que très légèrement seulement les prix payés pour les interventions réalisées dans les cliniques, quand dans le même temps, les tarifs vont augmenter de plus 4% dans le secteur public. Par exemple, les tarifs d'une appendicite ou d'une prothèse de hanche sont fixés par l'État 30% moins cher qu'à l'hôpital public. Autrement dit, explique le président de la FHP, plus le privé travaille, plus il fait faire des économies à la sécurité sociale. Le mouvement prévoit d'être très suivi et il est soutenu, Victor Delande, par 5 des 6 syndicats de médecins libéraux.
La situation est inédite. Jamais le privé n'avait prévu une telle grève. À partir du 15 mai, les chirurgiens des cliniques privées vont informer les patients. Les opérations prévues la semaine du 3 juin seront reportées et les services d'urgence seront également fermés. Lamine Garbi, président de la Fédération de l'hospitalisation privée, veut montrer au gouvernement que le secteur privé est essentiel dans le système de soins.
55% de la chirurgie est réalisée dans le privé, 40% de la cancérologie également. On prend en charge 9 millions de patients, donc si on doit encore aujourd'hui expliquer notre rôle fondamental en tant que mission de service public, j'en suis désolé. Sur le terrain, nous le savons tous, et la complémentarité se passe bien. Je ne peux pas accepter qu'il y ait cette dichotomie de traitement où c'est tout pour le public et rien pour le privé.
Les médecins libéraux seront également en grève car ils travaillent aussi dans ces cliniques privées. Ils veulent marquer le coup, à l'image de Philippe Cuc, coprésident du syndicat de médecins spécialistes Avenir Spé Le Bloc.
Le secteur libéral a fait la preuve de son efficacité. Et donc là aussi, ce n'est pas une compétition entre public et privé, c'est au contraire une synergie. Mais aujourd'hui, il y a trop de contraintes, trop de différences de tarifs pour le secteur libéral et donc nous ne pouvons pas continuer comme ça.
Le secteur privé réclame une augmentation de 500 millions d'euros pour l'année 2024, mais pour le moment, le gouvernement n'est pas prêt de céder.
Et Victor Delande, peut-être si vous aimez le dernier album de Taylor Swift, streamé d'ailleurs plus d'un milliard de fois, avez-vous remarqué que la chanteuse évoque un pub londonien du nom de Black Dog ? Dans ce titre du même nom, Taylor Swift surveille les déplacements de son ex grâce à la géolocalisation de son téléphone. Il n'en fallait pas plus, les fans pensent avoir découvert le pub dont elle parle. Il s'agirait, Emeline Vin, d'un petit établissement du sud-ouest londonien qui, évidemment, affiche complet tous les jours. How you don't miss
me in the black dog. Depuis la sortie de The Black Dog, Simran voulait à tout prix mettre l'image d'un lieu sur les paroles.
Elle parle de son ex. Elle le voit sur son téléphone se rendre dans ce pub avec une autre et elle lui dit « Je pensais que je te manquais. J'espère que tu vas passer un très mauvais moment dans ce bar. J'ai été obsédée par le fait de trouver cet endroit et c'est à côté des lieux où je traîne d'habitude. »
Au moins 14 pubs britanniques s'appellent Black Dog, mais pour les Swifties, c'est sûr, il s'agit de celui-ci. John, américain qui vient régulièrement à Londres, n'en revient pas.
Le manager de l'hôtel nous a prévu à l'avance que cette année, vous aurez du mal à réserver dans mon pub Black Dog parce que tout d'un coup, il y a du monde. À chaque fois que Taylor Swift touche à quelque chose, cette chose devient dorée. Elle est magique.
Sur le menu, les serveurs proposent un burger Swift et offrent des bières aux admirateurs. Lily Bottomley, responsable des événements.
Une heure après la sortie de l'album, les gens ont commencé à arriver. Nos ventes ont augmenté. Notre page Instagram a 5 fois plus d'abonnés. On va bientôt sortir des produits dérivés. Ce n'est que de l'amour.
Certains habitués s'agacent de voir leur taverne prise d'assaut. Les fans, eux, espèrent que leur icône passera par le Black Dog lors des dates londoniennes de sa tournée en juin. Londres, Emeline Vin, RFI pour France Inter.
Et puis Aya Nakamura, reine des flammes, la chanteuse 3 fois récompensée hier soir au trophée du rap, dont artiste féminine de l'année, album nouvelle pop et rayonnement international chez les hommes. C'est Gazo qui, comme l'an dernier, a été sacré artiste masculin de l'année.
C'était le journal de Laurence Thomas. À suivre dans la prochaine demi-heure, des militants d'ultra-droite de plus en plus décomplexés sur les réseaux sociaux. Ce sera le Zoom.
1804, l'exécution du duc d'Enghien.
Dimanche, 21h, Stéphanie Duncan.
En mars 1804, Bonaparte faisait enlever et fusiller ce prince de sang, et 2 mois plus tard, il proclamait l'Empire.
Nous sommes là pour exécuter la sentence. Mais je voudrais voir le général Bonaparte et lui parler. Cela ne se peut pas. Mais...
Autant en emporte l'histoire.
Tous les dimanches à 21h sur Inter et en podcast quand vous voulez.
France Inter, 7h13.
France Inter. Ali Badou, Marion Lourd, le 6-9.
On en fait tous l'expérience, volontairement ou non. Une notification apparaît sur notre smartphone et il nous indique notre temps d'écran. C'est souvent inquiétant. En tout cas, un aveu, hier, le mien atteignait 8h53, moyenne quotidienne de la semaine. Et quand on sait les conséquences sur la santé mentale, c'est un vrai souci. L'emprise qu'a sur nous l'économie de l'attention et tout le monde ici en studio a l'air médusé, sidéré. Comment se libérer de notre vie numérique sans pour autant se couper complètement du monde? Équation impossible. Comment se rapprocher de ce qu'on appelle le minimalisme numérique? 80 secondes pour une tendance de fond que décrit le New Yorker cette semaine, le boom du dumbphone. Vous connaissez évidemment le smartphone, le téléphone intelligent, comme disent nos amis québécois, celui qui est au cœur de ce que Bruno Patino désigne comme la civilisation du poisson rouge. Voici à présent le dumbphone, le téléphone crétin, caractéristique de ces appareils low-tech. Pas d'écran d'haute résolution, pas d'appareil photo, aucune application qui pourrait nous hypnotiser à longueur de journée. Et le New Yorker fait le tour des différentes marques et cherche à comprendre le succès des téléphones crétins, puisque 20 ans après la commercialisation de l'iPhone, ce sont des dizaines de milliers de Lightphones qui sont vendus chaque année aux États-Unis avec un écran monochrome. On ne peut que passer un coup de fil, mais après tout, c'est un téléphone, envoyer des messages. Oui, ça paraît fou, aucun accès aux réseaux sociaux. Même chose avec un vieux Nokia 2780 à clapet. Pour protéger la santé mentale des élèves, des dizaines d'écoles ont choisi ces téléphones crétins et ça, apparemment, ça marche, comme si Internet n'avait plus rien d'amusant et que nous étions enfin parvenus à l'époque de l'ennui numérique. Vive le téléphone crétin, le Zoom. Les rassemblements de militants d'ultra-droite se sont multipliés ces derniers mois malgré les dissolutions administratives ordonnées par le gouvernement. On se souvient évidemment de Romans-sur-Isère après le meurtre du jeune Thomas tué à coups de couteau. Mais il y en a eu d'autres, notamment à Paris. Bonjour Frédéric Mettezo.
Bonjour à tous.
De la cellule Investigation de Radio France, pendant 6 mois, Frédéric, vous avez observé l'activité de ces militants sur les réseaux sociaux et vous l'avez constaté, ils sont de plus en plus visibles et décomplexés.
Oui, et en coulisses, on assiste à de véritables appels à l'insurrection, comme le 16 mars dernier. Nous sommes sur le média Géopolitique Profonde sur YouTube, très prisé à l'ultra-droite. Celui qui parle est un ancien capitaine de gendarmerie, Alexandre Juvin-Brunet.
Il faut préparer les esprits au combat. Nous allons peut-être devoir nous réapproprier les pensées, méthodes utilisées par les résistants qui étaient avant tout des combattants l'arme à la main.
Cette mobilisation, elle n'a pas échappé aux autorités et à ce cadre haut placé de la police que nous avons rencontré. Il suit de très près les groupuscules les plus radicaux. Il a souhaité rester anonyme, donc nous avons fait lire ses propos.
L'ultra-droite monte en puissance et en dangerosité. Elle est réorganisée et elle se montre plus facilement car les échanges sont plus faciles via les réseaux sociaux. Il y a un risque de passage à l'acte, on n'est pas à l'abri d'une attaque de mosquée.
Et sur Telegram, des boucles privées proposent de vrais petits manuels de l'activiste. Nous avons pu nous abonner à l'une d'entre elles et voir ce type de message, là encore lu par un journaliste.
Équipez-vous et armez-vous. Mais même si ce sont des armes détenues légalement, ne communiquez pas sur votre arsenal, ni en ligne, ni aux autres membres de l'équipe. Plus il y aura des équipes, plus les capacités de surveillance du pouvoir seront saturées.
Appel à la rébellion, à la violence contre les militants de gauche, dénonciation de l'IVG et de la transidentité, rejet de l'islam et des immigrés, ce sont les obsessions de l'ultra-droite, tout comme l'antisémitisme. Le jour de la mort de Robert Badinter, des militants se déchaînent, y compris ceux de l'Action française, qui est un mouvement autorisé. Mais ce jour-là, elle parle, entre guillemets, de l'ordure, de l'infâme Badinter. Ces mots sont violents et peuvent tomber sous le coup de la loi, mais ils nous permettent de mesurer ce qui est à l'œuvre.
Et ces activistes qui semblent donc plus menaçants sont-ils pour autant plus nombreux, Frédéric ?
Alors non, selon nos informations, leur nombre est stable. Environ 3000 personnes constituent le noyau dur, dont 1200 sont fichées S. Mais ce qui est nouveau, c'est une convergence entre des groupes qui jusqu'ici ne se fréquentaient pas. Désormais, les catholiques intégristes, les identitaires et les nationalistes révolutionnaires type GUD se connectent sur les réseaux sociaux et se retrouvent sur le terrain. Hors structure. C'est l'un des effets contre-productifs des dissolutions administratives ordonnées par le ministère de l'Intérieur. Le député de la majorité, Éric Poulia, auteur d'un rapport sur les mouvements radicaux, a constaté ces rapprochements.
Ils sont capables de se retrouver sur un événement et de montrer qu'ils sont nombreux. Il y a des gens qui ne se connaissent pas forcément, qui viennent d'horizons différents. Ça fait un rassemblement à 500, 1000, 1500 personnes. Alors que, voilà, il y a quasiment la moitié des troupes de tout le pays qui est là. Et les identitaires d'ailleurs se chargeaient un peu de la com, et il y avait après un peu les autres qui étaient un petit peu plus costauds, voilà, pour faire si besoin était le coup de poing.
Malgré ses limites, un commissaire de police nous a expliqué l'intérêt des dissolutions administratives. Au-delà des enjeux policiers, il y a pour lui des enjeux de communication et de perception de l'autorité de l'État, pour adresser un message aux activistes de l'ultra-droite.
Merci Frédéric. Mettez aussi moi au cœur de la mouvance d'ultra-droite. Enquête à retrouver dès maintenant sur franceinter.fr et demain à 13h20 dans Secret d'Info.
Il est 7h20 sur Inter.
Le 6-9, Ali Badou, Marion Lourd sur France Inter.
En toute subjectivité avec la présidente de la Fondation des Femmes, bonjour Anne-Cécile Maillefer.
Bonjour à toutes et tous.
Vous revenez sur la condamnation d'Harvey Weinstein qui a été annulée hier à New York. Qu'en pensez-vous ?
C'est un coup dur, car cette affaire n'est pas n'importe laquelle. Harvey Weinstein a été le déclencheur du mouvement MeToo en octobre 2017 et sa condamnation en 2020, une victoire historique pour les 90 femmes qui ont témoigné et au-delà, un espoir pour tant d'autres. Pour autant, la décision de la Cour d'appel de New York hier porte sur la forme, pas sur le fond. Le juge n'aurait pas dû admettre certains témoignages d'agression antérieurs aux faits jugés ou extérieurs à New York. Mais c'est pas sans conséquence. Cette décision prise à une courte majorité est déjà contestée par des juges qui redoutent qu'en faisant jurisprudence, elle ne rende plus difficile pour les victimes de faire valoir leurs droits face aux agresseurs en série. Car mettre en lumière un comportement répétitif peut se révéler décisif pour cerner le profil de l'accusé. Les avocats de Weinstein parlent bien sûr de victoire et les détracteurs de MeToo de leur côté ne manquent pas de fanfaronner et de venir renforcer un discours antiféministe qui gagne du terrain et nourrit l'électorat Trump. Weinstein n'est pas tiré d'affaire pour autant, il est toujours incarcéré pour une autre condamnation en Californie et il sera rejugé à New York. Mais ces revirements soulèvent des questions sur l'efficacité des systèmes judiciaires à rendre justice aux victimes de violences sexuelles.
Et en France, Anne-Cécile, comment vous percevez la situation par rapport à ce mouvement MeToo ?
La France n'est pas épargnée par l'incapacité de la justice à donner des suites satisfaisantes à MeToo, en d'autres mots, par l'impunité. Pouvez-vous me citer un des mis en cause de MeToo qui a été condamné par la justice depuis 7 ans ? Non. Si MeToo a permis des prises de conscience salutaires et que les dépôts de plaintes ont explosé, tout reste à faire. Les condamnations stagnent et les classements sans suite augmentent pour atteindre 94% en 2022. Souvent, aucune enquête n'est menée par la police par manque de moyens. Notre Premier ministre parle d'autorité ces derniers jours. Face à des enfants, c'est pas si difficile. La vraie, celle qui compte, c'est l'autorité sur les puissants. Est-il capable d'agir avec fermeté face aux agresseurs ? Est-il prêt à mettre en place une loi intégrale contre les violences sexuelles qui comble les lacunes de notre système judiciaire, qui réforme en profondeur la façon dont les affaires de violences sexuelles sont traitées et renforce les moyens dédiés à la prévention et à la sensibilisation ?
Et d'après vous, qu'est-ce qui nous bloque aujourd'hui ?
Les préjugés, beaucoup, qui persistent, minimisent la gravité des violences faites aux femmes. Continuent à briser le silence qui entoure ces violences, comme le fait Judith Godrèche, Karine Lacombe pour MeToo Santé ou récemment MeToo Cuisine, MeToo Armée ces dernières semaines est absolument essentiel. Mais ce qu'il nous manque avant tout, c'est la volonté politique pour que notre état de droit fonctionne pleinement. On a promis aux femmes qu'on les écouterait. La justice doit pouvoir passer.
Merci Anne-Cécile Maillefer, présidente de la Fondation des Femmes. On vous retrouve vendredi prochain.
Le 6-9 sur France Inter.
Bonjour Alina Fanoukoé.
Bonjour Ali, bonjour Marion, hola à todos.
Ce matin, Musicaline Zoom sur Hyper Drama, le nouvel album de Justice, en partenariat avec France Inter.
La balade disco Saturnine risque de vous retourner le cerveau tout le week-end à force de l'écouter en boucle avec la voix sensuelle de Miguel, que j'ai envie d'appeler Miguel. On a la chance d'être encore amis. Nous savons sur quel bouton appuyer pour que l'autre soit heureux. On pose les mêmes mots sur les mêmes sensations et les mêmes émotions. Vous direz peut-être la même chose un jour, Marion et Ali.
Mais oui.
Quand vous aurez vous aussi plus de 20 ans de complicité au compteur, comme nos deux compères, Gaspard Auger et Xavier Deronet, le duo français mondialement connu depuis son Grammy Award du meilleur album de musique électronique en 2018 pour Woman Worldwide. Yeah. L'art de justice, la danse pour tous, mes amis. Un savoir-faire made in France qui leur a valu une double consécration américaine, car avant le Grammy, eh bien, les portes de la prestigieuse scène du festival Coachella en Californie leur ont été ouvertes. Un sacrement pour justice en 2007 qui a changé leur vision en les libérant de leurs doutes et en validant définitivement leur entrée dans la cour des grands hommes.
Rien de moins.
Rien de moins, Ali. Et le 12 avril dernier, ils ont donné le coup d'envoi de la nouvelle édition du festival californien sur Hyperdrama, quatrième album de justice. Le tandem a créé une nouvelle odyssée sonore, vaste, futuriste et mystérieuse. One Night, All Night, featuring Tiny Impala, le résultat d'une des premières démos composées pour l'album et influencée par des morceaux issus de compilations Gabber. C'est le mouvement techno-hardcore au début des années 90. Eh bien, les super conquérants de la musique électronique sont bel et bien de retour, les amis, pour stimuler nos oreilles, nos cœurs, nos pas de danse sur la piste.
Ils sont DJ et producteurs à la base.
Oui, Marion, et ils offrent ici un enchaînement de tempo comme fabriqué au platine dans la spontanéité d'un un mix dont ils ont le secret grâce à l'alliance virtuose de leur matos vintage et des techniques digitales. Splendide, Hyperdrama, et parmi leurs invités, bien le duo iconique s'offre la collaboration prestigieuse de l'excellent producteur, chanteur et musicien originaire de Compton, Thundercat, pour un final apocalyptique annonciateur d'une nouvelle direction dans le spectre de justice.
Le nouvel album de Justice, Hyperdrama, est donc disponible et ils sont en tournée. On pourra les voir en concert, Aline, le 1er juin à Wheel of Green à Paris et le 17 aux Nuits de Fourvière à Lyon.
Je serai dans la fosse à chaque fois.
Évidemment. Et à lundi.
À lundi.
Chez Aline Afanoukoé dans Musicaline et aussi dans la playlist France Inter. La météo à suivre dans une petite poignée de secondes.
France Inter, 9h20, Rebecca Manzoni.
Un cow-boy danois, une dédicace à Agnès Varda et une chasse au canard. Cette semaine, rendez-vous avec Viggo Mortensen, comédien et cinéaste.
Totémique, tous les vendredis à 9h20 sur Inter.
France Inter, une radio, deux applis.
Sur l'application Radio France, tous les replays, tous les podcasts.
Sur l'application France Inter, le live, les vidéos, les messages et les notes vocales pour réagir en direct.
France Inter dans votre poche, deux applis gratuites dans votre téléphone.
Bon réveil à l'écoute de France Inter, il est 7h27.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules électriques, hybrides et thermiques. Euromaster, toute notre expertise pour les pros au service des particuliers.
Marie-Pierre Planchon, le temps devient instable.
Et oui, l'anticyclone a eu une petite faiblesse et l'air froid de nord laisse place au vent de sud-ouest qui vient d'Espagne et du Maghreb et qui fait remonter les nuages venant de la dépression située sur le golfe de Gascogne. Résultat, régime d'averse pour tout le monde, ou presque. Parce que ce matin, vous n'aurez pas d'averse entre les Charentes, l'Île-de-France, les Ardennes, mais aussi sur les Pyrénées qui restent sous le le soleil matinal, mais cet après-midi, ce sera radical, pluie et neige dès 1300 mètres. Comme d'ailleurs sur le Massif central et les Alpes, et ce pour toute la journée. Puis dans le sud, la pluie arrose déjà le sud-est ce matin, puis sur tout le pourtour méditerranéen dans la journée, la Corse restant à l'écart, et ces pluies seront doublées d'orages des Côtes-Varoises en remontant vers les Cévennes, la Bourgogne, mais aussi de la Normandie aux Charentes, car la dépression britannique apporte des averses près de la Manche et va rejoindre celle de l'Atlantique, et à surveiller demain le sud, car on attend un épisode méditerranéen avec de bons cumuls et des vents très forts.
Et le mercure, Marie-Pierre, oui, qui était quand même au plus bas ces derniers jours, oui, repart à la hausse.
Eh oui, on sera encore au plus, enfin pas au plus bas, mais on sera encore en dessous des normales de saison. Ce matin, il y a encore des petites gelées ici ou là, comme dans l'Est, hein, en Moselle, à Eurouville, vous avez moins 1, comme dans la Marne. Mais il fait 12 près de Montpellier. Vous avez 6 à Paris, 8 à Nevers, comme à Quimper, 9 à Saint-Étienne. Et cet après-midi, comptez 14 au Havre, comme à Nancy, 16 à Bourges, comme à Marseille, 17 à Toulouse et 19 à Ajaccio.
Merci Marie-Pierre Planchon, et un mot pour vous dire qu'à 9h05, dans les 15 minutes de plus, l'invitée sera Clotilde Le Guil, elle est psychanalyste et elle viendra nous parler des rêves. Ce sera juste avant Totémique à 9h20 avec un invité très prestigieux, Viggo Mortensen répondra aux questions de Rebecca Manzoni. Et puis dans la bande originale, Nagui et Leila Kadour Boudadi recevront Artus et Alice Belaïdi. Voilà pour le programme. Marion, il est...
Merci à vous d'écouter France Inter, il est 7h30.
Le journal Alexis Morel. Bonjour Alexis.
Bonjour à tous. Les Ukrainiens expatriés dans le viseur des autorités à Kiev. Elles veulent rapatrier tous les hommes en âge de combattre. Et la Pologne voisine, qui compte de très nombreux réfugiés, se dit prête à aider l'Ukraine. Nous serons à Varsovie dans ce journal. Ça se tend dans les agences France Travail. Insultes, agressions physiques contre les agents. Les signalements sont en nette hausse. Les syndicats y voient notamment les conséquences des polémiques et des réformes autour du chômage. Vous les entendrez. Dans ce journal aussi, les JO dans 3 mois. Quelle retombée pour l'économie française cet été. 3 fois plus de changements de nom depuis la loi de 2022. Et puis cette révélation chez les gallinacés, les poules aussi rougissent.
Et à 7h45, un discours fleuve où il a été question de défense européenne, mais pas seulement. Emmanuel Macron a appelé aussi à doubler l'investissement au niveau européen dans les secteurs d'avenir pour rattraper les États-Unis et la Chine. Le programme du chef de l'État pour l'Europe passée au crible. Dans le débat éco, Thomas Porcher, Dominique Seux, ça sera juste avant le journal de 8h.
France Inter. Pour le patron de l'OTAN, rien n'est joué en Ukraine, Alexis.
Malgré l'avancée des troupes russes, Kiev peut encore l'emporter. Il n'est pas trop tard, selon lui, à condition que les Occidentaux tiennent enfin leur promesse de livraison d'armes. L'armement, c'est une chose, mais il manque aussi des hommes à l'armée ukrainienne. Les autorités comptent les trouver parmi les expatriés, d'où cette annonce cette semaine. Les hommes ukrainiens ne pourront plus renouveler leur passeport à l'étranger. Façon de les forcer à revenir pour combattre. Et dans cet objectif, l'Ukraine pourra compter sur la Pologne. La Pologne où vivent plus d'un million de réfugiés. Varsovie se dit prête à aider sa voisine pour ses rapatriements. Sur place pour Inter, Adrien Sarla.
Au centre d'aide pour les réfugiés ukrainiens de Varsovie, la nouvelle a de quoi surprendre. Pour Lena, 58 ans, renvoyer les hommes en âge de se battre vers l'Ukraine n'a pas de sens.
Ceux qui étaient patriotes, qui pouvaient se battre, sont déjà là-bas. Ceux qui restent, ce sont ceux qui ne se voient pas manier une arme, ceux qui ne s'imaginent pas tuer quelqu'un ou ont simplement peur.
Une peur que Natalia s'efforce elle aussi de comprendre.
Ces hommes devraient défendre le pays, mais cette mesure, c'est juste une façon de retarder l'intervention des pays occidentaux, une fois que tous nos hommes seront morts.
Alexandre a 60 ans, il n'est donc plus en âge d'être mobilisé, mais il l'assure, être à l'étranger ne fait pas de lui un mauvais patriote.
Mes enfants vivent en Pologne depuis plus de 6 ans. Et je ne dirais pas qu'ils ne sont pas patriotes, car ils sont dans tous les groupes d'aide. Ils recueillent des fonds pour l'armée, ils tissent des filets de camouflage militaire, et ce qu'ils font est nécessaire. Je pense même qu'ils sont plus utiles ici qu'en Ukraine.
Aujourd'hui, 93% des hommes ukrainiens travaillant légalement en Pologne ont entre 20 et 59 ans. Si la Pologne met sa menace à exécution, il risque d'être reconduit de l'autre côté de la frontière.
Adrien Sarla à Varsovie pour Inter et avec la Pologne. La Lituanie envisage elle aussi de soutenir, d'aider l'Ukraine dans ses rapatriements d'expatriés. Au Proche-Orient, ce n'est pas une solution miracle, mais tout de même l'espoir d'une intensification de l'aide humanitaire à Gaza. Les États-Unis ont lancé hier soir la construction d'une jetée sur la côte de l'enclave palestinienne assiégée. Elle permettra à des bateaux chargés de denrées d'accoster plus facilement. Ce conflit et ses échos sur les campus américains où le mouvement pro-palestinien se généralise. Face au risque de tension, l'université new-yorkaise de Columbia annonce ce matin reporter l'évacuation des étudiants sur le site. Et en France, le siège de Sciences Po Paris a à nouveau investi cette nuit par une cinquantaine d'étudiants en faveur de la Palestine.
Dans l'actualité aussi, le climat qui se tend au guichet de France Travail.
Oui, agression, incivilité en tout genre, intention suicidaire. Il n'y a jamais eu autant de signalements de tension dans les agences de l'ex-Pôle emploi. Plus 12% l'année dernière. Tous les indicateurs sautent au rouge dans un rapport interne révélé par Politis et que vous avez pu consulter également, Willy Moreau.
L'année dernière, 16 000 fiches de signalement ont été rédigées à travers les 900 agences du pays.
Ça peut être des insultes.
Vincent Lalouette, membre du bureau national du syndicat SMU-FSU.
On a aussi la réception au courrier de l'agence d'une enveloppe contenant une balle. Avec un mot en disant « je vous tuerai tous ». Et puis le dernier niveau, c'est l'agression physique.
143 agressions physiques, 6900 agressions verbales signalées l'année dernière, ce sont des records. Depuis 2021, France Travail encourage ses agents à signaler tout incident depuis l'assassinat d'une conseillère à Valence. C'est une des explications assez hausse selon Laurent Méric, mais le président du syndicat SNAP en avance également une autre.
Les tensions qui existent notamment par rapport au marché du travail, à la pression qui est mise sur les demandeurs d'emploi qui ne seraient pas suffisamment actifs dans leurs recherches, et puis les inquiétudes aussi par rapport aux réformes de l'assurance chômage passées et annoncées font qu'effectivement les conditions d'accueil de nos usagers les amènent à être un peu plus agressifs verbalement et physiquement.
Des demandeurs d'emploi qui menacent de plus en plus de se suicider. Plus de 3000 signalements l'année dernière. Le nombre a été multiplié par 3 depuis 2019.
Willy Moreau de France Info pour ce document de France Travail qui fuite au lendemain des derniers chiffres du chômage dévoilé par l'organisme. Chômage qui s'est stabilisé au premier trimestre à moins 0,1% après 6 mois de hausse. Beaucoup plus préoccupant pour l'exécutif, les chiffres du déficit et de la dette avant le verdict ce soir de deux agences de notation. Première réévaluation de la note souveraine française depuis les mauvaises nouvelles budgétaires du début d'année. Alors Fitch et Moody's vont-elles, oui ou non, l'abaisser cette note? Une dégradation pourrait, mais ce n'est pas automatique, renchérir le coût des futurs emprunts de l'État. D'autant que pour ne rien arranger, la croissance française ne devrait pas dépasser 1% cette année, à moins que les JO ne changent la donne. Emmanuel Macron espère 6 milliards d'euros de retombées pour l'économie. Est-ce crédible, Fabien Cazot ?
Selon les économistes qui ont commencé à travailler sur le sujet, il y a deux types de retombées économiques que la France peut attendre de ces Jeux. Les premières, ce sont les retombées immédiates, celles qu'entraînera pendant l'été la hausse de la fréquentation touristique. 1 200 000 touristes supplémentaires sont attendus en juillet et août. Leurs dépenses de consommation, d'hébergement, de transport viendront alimenter la croissance française. Certains parlent d'une hausse ponctuelle de 0,5% de notre richesse nationale pendant l'été, ponctuelle car la croissance trimestrielle devrait retomber à 0,1% ensuite en fin d'année. L'ordre de grandeur en termes de recettes sera donc de quelques milliards d'euros. C'est toujours bon à prendre, commente-t-on à Bercy, où l'on explique aussi miser sur un second type de retombées économiques, celles à plus long terme, comme par exemple l'impact sur l'image et l'attractivité économique de la France pour les investisseurs, qui dépendra aussi de la manière dont se dérouleront les Jeux.
Et à 3 mois pile de l'ouverture de ces Jeux de Paris, la flamme olympique va quitter ce soir la Grèce pour embarquer sur le Bélem, le mythique 3 mâts. Nous serons sur place dans le journal de 8h. L'arrivée est prévue le 8 mai prochain à Marseille. Pour prendre le nom de leur mère plutôt que celui de leur père ou accoler un deuxième nom à leur patronyme original, 144 000 Français ont changé de nom de famille depuis que la loi le facilite grandement, c'est-à-dire depuis l'été 2022. Un simple formulaire en mairie suffit désormais, pas besoin de se justifier. Résultat, 3 fois plus de démarches qu'avant, selon l'INSEE, qui vient de tirer Gabriel Grécourt à un premier bilan de cette simplification.
Ces changements de nom sont demandés en majorité par des femmes, détaille Lionel Espinasse de l'INSEE.
C'était déjà le cas avant la loi Vignal. On avait 54% de femmes et 46% d'hommes. Ce phénomène s'est accentué avec la loi Vignal, puisque maintenant on est plutôt à 57% de femmes et 43% d'hommes qui font la démarche de changer de nom de famille.
Une grande partie de ces femmes ont connu dans leur enfance des situations de violence familiale. C'est en tout cas ce qui ressort des milliers de témoignages recueillis par le collectif Porte mon nom, sa présidente Marine Gatineau-Dupré.
Ces femmes-là souhaitent changer de nom de famille pour oublier en fait le calvaire qu'elles ont vécu dans leur enfance. Donc que ce soit abandon, maltraitance ou violence, le but c'est de pouvoir se reconstruire et de commencer une vie adulte avec un nom qui va les aider à aller de l'avant et pas un nom qui les rappelle à toute cette horreur qu'elles auraient pu vivre. Ce qu'elles veulent en fait, c'est enlever le nom de leur bourreau.
Pour certains, c'est donc un moyen d'effacer un passé douloureux. Pour d'autres, changer de nom est l'occasion de faire exister le patronyme maternel en l'ajoutant simplement à celui du père.
C'est l'un des plus grands rassemblements de l'année pour les gens du voyage. Dans le Loiret, dès demain, 27 000 d'entre eux doivent participer à ce pèlerinage évangélique géant de l'association Vie et Lumière. Ils se réuniront pour prier et chanter sous un chapiteau de 120 mètres de haut. Ça doit durer une semaine et les organisateurs comptent bien, Julien Penaud, ne pas reproduire les erreurs de l'année dernière marquée par des débordements et des dégradations.
Les caravanes s'installent en cercle. Les familles se regroupent comme celle de ces deux cousines de région parisienne, Marjorie et Shannon, assises sur des chaises de camping.
Pour prier,
exprimer notre foi, quoi, notre joie.
Et certains messages s'adresseront au chanteur tzigane, Kenji, qui se remet d'une blessure par balle.
Que Dieu le garde, qu'il protège, et surtout un jour s'il pourrait venir chanter pour nous à la convention.
Car ici, la scène est un énorme chapiteau. 8000 fidèles peuvent y prier, comme Rudy, venu de Tours.
On a tout le monde qui vient s'assembler sous cette église pour que tous les groupes partent évangéliser dans toute la France.
Mais la diffusion de la bonne parole a généré aussi des nuisances. Lors des précédentes éditions, le maire de Nevoix, Jean-François Darmois.
C'est souillé partout. L'eau sanitaire, on n'a pas à rentrer dans les propriétés pour faire ses besoins.
Réponse de l'organisateur, le pasteur Joseph Charpentier.
Nous avons mis plus de 130 WC répartis sur tout le terrain. Le gitan, c'est l'inconnu et on a toujours peur de l'inconnu. Mais justement, ce rassemblement, je veux démontrer à la population française que nous, tziganes, gens du voyage, on peut se réunir à 25 000 personnes et que finalement, on peut vivre en bonne cohabitation.
400 gendarmes seront justement là 24 heures sur 24 pour s'en assurer.
Et pour la première fois, une jauge à 27 000 personnes maximum est instaurée pour éviter la surfréquentation. 40 000 participants l'année dernière.
Et puis Alexis, nous ne sommes pas les seuls à rougir quand une émotion nous traverse.
Eh bien non, figurez-vous que les poules aussi, quand elles stressent ou au contraire qu'elles prennent du plaisir, ça rougit dans le poulailler et ça vient d'être scientifiquement prouvé, oui, par l'INRAE, l'Institut de Recherches Agronomiques. L'étude a été menée en partie en Touraine, dans un élevage de Cléré-les-Pins, près de Tours, où s'est rendu Romain Desecq.
Chez Manuela, éleveuse de races anciennes, plutôt surprise lorsqu'on lui a fait la proposition.
C'est Aline qui m'a laissé un message en me disant voilà, on cherche des éleveurs qui pourraient collaborer avec nous sur les émotions des volailles. Je ne vous cache pas qu'au départ, je me suis dit qui me fait une blague à deux balles.
Aline, c'est Aline Bertin, éthologue passionnée par les oiseaux. L'idée lui est venue lors d'une visite.
Je me suis retrouvée face à une petite poule Pékin. Elle est venue à mes pieds, donc je l'ai caressée spontanément et j'ai remarqué qu'elle changeait de couleur de peau en quelques secondes. Je me suis dit qu'elle avait potentiellement des marqueurs d'émotions que j'ignorais.
Elle lance donc un projet de recherche en compagnie de Cécile Arnoux, également éthologue à l'INRAE.
Les gens qui ont des animaux vont vous dire qu'ils voient que leur chien ou leur chat ressentent des choses. Par contre, les oiseaux, c'est un peu les parents pauvres. Les poules, encore plus, c'est l'image de l'animal de basse-cour.
Vérification dans le poulailler de Manuela.
Je vais essayer de la prendre. Ouais, je veux bien que tu m'aides, ouais.
Autour de l'œil et au niveau des barbillons, donc sous le bec.
C'est rouge vif, hein. C'est groseille. Et vous allez voir, je vais la reposer. Elle va pas lire.
Et pour l'éleveuse, cette découverte fut une petite révolution.
Et j'ai des clients qui m'appellent en me disant « Ouais, ça y est, on a vu, on trouve ça génial, mais oui !» Voilà, la mission est accomplie, quoi.
L'idée, c'est aussi que ce travail serve la filière avicole, sensibiliser et à terme, adapter les méthodes de production au bien-être des poules.
Un reportage France Bleu Touraine. Voilà, les poules rougissent, mais ont-elles aussi la chair de poule ?
Vraie question.
Voilà un sujet de recherche futur.
Mais oui, un projet d'avenir. C'était le journal d'Alexis Morel. À suivre, faut-il demander aux Français l'origine de leurs parents quand on fait le recensement ? Élément de réponse dans l'édito politique.
France France Inter, 16h, Mathieu Noël.
Marre des rencontres en ligne sans étincelle, overdose de matchs sans lendemain. Et si on levait le pied sur les applis de rencontre? Ce vendredi, zoom sur le syndrome de la dating fatigue.
Zoom Zoom Zen, tous les jours à 16h sur Inter.
Et si vous aviez l'occasion de rouler en première classe au prix de la seconde? DS Automobile présente le surclassement en DS7 Crossback d'occasion. Car si ce n'est pas la destination qui compte, mais bien le voyage, pourquoi vous contenter de bien quand vous pourriez avoir mieux? Jusqu'au 30 avril, vivez une expérience de conduite premium à bord d'un DS7 Crossback E-Tense hybride rechargeable d'occasion à partir de 390€ par mois. Surclassez-vous avec DS Certified. Voir conditions sur dscertified.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
France Inter, 7h43.
Le 6-9 sur France Inter.
L'heure de l'édito politique avec vous. Bonjour Yael Gauze.
Bonjour Ali, bonjour Marion.
La France est-elle en train de se convertir aux statistiques ethniques?
Les années passent et la question donne toujours autant de sueur froide à ceux qui redoutent qu'on collecte des données sur l'origine, la religion, le genre ou l'orientation sexuelle, collecte qui serait contraire à l'esprit de la République, dont l'universalisme ne reconnaît aucune communauté. On est en France, pas aux États-Unis, où l'on vous demande votre race ou votre ethnicité. D'ailleurs, au prochain recensement américain en 2030, il y aura deux nouvelles catégories. Vous identifiez-vous comme moyen-oriental ou africain du Nord, en plus des catégories déjà existantes, asiatique, noir ou afro-américain, hispanique ou latino et blanc.
Mais ce qui n'existe pas dans le recensement tel qu'on le pratique en France avec l'INSEE, l'Institut National de la Statistique.
Non, et pour cause, la loi l'interdit depuis 1978, sauf à des fins de recherche. Mais les choses vont changer. Réforme du recensement, l'an prochain, dans les questionnaires, il y aura une nouvelle ligne pour demander le pays de naissance de vos parents quand ils sont nés à l'étranger.
Les parents, quel rapport avec la personne recensée?
C'est bien ce qui a suscité une vive opposition de la part de la CGT et de la Ligue des droits de l'homme, par crainte d'une classification ethnique des personnes dans un débat public envahi par les préjugés. Je cite la tribune de Sophie Binet et de Patrick Baudouin, publiée fin mars dans Libération. Opposition et recours qui n'ont pas abouti, puisque la réforme va bien s'appliquer en 2025 avec cette question du pays de naissance des parents.
Et d'après vous, il faut le regretter?
Eh ben non, je vais vous dire, c'est même utile, parce qu'on a besoin de données objectives pour mieux identifier et mieux lutter contre les phénomènes de ségrégation. C'est la position de la défenseure des droits Claire Hédon, ou du démographe François Héran, professeur au Collège de France. Que disent-ils? Qu'une société qui ne se connaît pas elle-même, c'est un problème, c'est le robinet à fantasmes. Face aux fake news du grand remplacement, il faut pouvoir montrer la France telle qu'elle est, tout sauf figé dans une francité unique qui n'existe pas. Notre identité étant par essence un mélange, un métissage permanent. Il faut pouvoir tracer les parcours pour se donner ensuite les moyens d'agir si certains souffrent du regard des autres.
Et est-ce qu'il y aura des garde-fous?
La réponse au pays de naissance n'aura rien d'obligatoire et dans la phase test, l'INSEE a constaté des taux de non-réponse dérisoires, moins de 5%. Et puis cette question, ça fait plus de 20 ans qu'elle est posée en réalité, pas dans le recensement, mais au fil d'enquêtes démographiques plus ciblées sur l'emploi par exemple. Avec cette question, l'INSEE contribue à une meilleure connaissance de la société. Faut-il ressortir cette enquête du Défenseur des droits de 2017 qui montre que les jeunes hommes perçus comme noirs ou arabes ont 20 fois plus de risques d'être contrôlés, ou les galères du député de la majorité, Marc Ferracci, et de sa loi pour généraliser le testing, détricotée ou presque par le Sénat? Combien de Français de confession musulmane ultra-diplômés finissent par s'expatrier faute de réponse à leur CV? Des milliers, nous dit le livre enquête « La France, tu l'aimes, mais tu la quittes » au Seuil, que publient trois sociologues qui décrivent, preuve à l'appui, l'ampleur des discriminations à l'embauche. Alors si, modestement, un outil statistique où sont nés vos parents peut aider à mieux vivre ensemble, c'est un petit pas de plus et c'est un progrès vers un universalisme beaucoup moins abstrait.
Yael Gauze pour l'édito politique, le débat éco à suivre.
France Inter, Marion Lourd, Ali Badou, le 6-9.
7h46, c'est comme chaque vendredi, on retrouve Thomas Porcher et Dominique Seux. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Sorbonne, saison 2, on va revenir avec vous sur l'intervention du président de la République. Une heure, trois quarts consacrée à l'Europe. Le président français présentait sa vision donc au même endroit qu'il avait prononcé le premier discours programmatique. On a retenu une formule, l'Europe peut mourir. Mais ce discours comporte aussi des propositions à quelques semaines maintenant du scrutin européen. D'abord, votre impression générale. Le projet s'appuie sur un bilan, le bilan européen d'Emmanuel Macron. Depuis 7 ans, est-il conséquent, Thomas ?
Alors, déjà, sur l'impression, la première impression que j'ai eue, moi, j'ai écouté très religieusement le discours, hein, 1h49, je l'ai même lu sur le site de l'Élysée, et vraiment, sur l'organisation des discours européens, moi qui en ai écouté beaucoup, j'ai vraiment l'impression d'être dans une série Netflix. Il y a une organisation qui est propre à chaque discours. Alors, tous les discours européens depuis 20 ans hein, commencent par le constat alarmant. Alors là, l'Europe peut mourir. On a eu « L'Europe est en danger ». « L'Europe est un carrefour », on a eu il y a à peu près 24 ans. Et puis après, il y a « Les défis de l'Europe face à un monde qui change ». Alors ça, on l'a toujours. Et puis alors, la dernière chose, c'est « L'Europe doit changer ». Alors quand vous suivez ces discours comme moi, la première fois, vous dites « Ah, c'est intéressant ». La deuxième fois, vous y croyez à moitié. La troisième fois, vous dites « J'ai déjà entendu, j'ai déjà vu ça ». Vous voyez, donc moi, je vais vous le résumer, le discours. Il y avait une phrase, moi, je me souviens du ministre des Pays-Bas sur la stratégie de Lisbonne. Au début des années 2000, Wincock, il avait dit « Ça parle de tout et donc de rien ». Et le discours de Macron, c'est ça hier. Ça parle
mais
de
vous
tout
n'avez pas parlé
rien.
Du bilan.
On va en...
Dominique Seux.
Non, mais c'est, moi, ce qui m'a frappé, puisque vous posez la question sur l'impression générale, c'est c'était clairement un discours de président plus qu'un discours de soutien à la liste de son camp. Donc, c'était pas un discours très sur la vie concrète des Français. C'était un discours plus de vision, rationnel, pas dans l'émotionnel, et probablement avec un, enfin moi à mon avis c'est un bilan qui est et un constat qui est très juste, qui est on verra les limites évidemment, mais le constat juste c'est l'Europe est encerclée et c'est nouveau. Elle est encerclée évidemment par une Russie hostile, elle est encerclée par des États-Unis et une Chine qui sont très différents de ce qu'ils étaient il y a 10 ans. Au fond, si je le dis en une phrase, Emmanuel Macron a acté la fin de l'Europe libérale. Et c'est une vieille vision française depuis... la France rêve de ça depuis... même c'était avant Emmanuel Macron, hein, Jacques Chirac, François Hollande. L'Europe doit être différente. Et en fait, le monde, d'une certaine manière, montre que la France a raison depuis une quinzaine d'années. Et donc, il en est très satisfait. Mais évidemment, c'est très difficile de trouver les bonnes réponses. Et c'est pour ça que je suis évidemment pas d'accord avec Thomas Porcher. Alors naturellement, ce qui était frappant à l'oreille, c'est qu'il n'y a pas d'effet waouh sur la campagne électorale. C'est l'opinion ce matin qui dit, bah oui, mais de quoi les médias en continuant ont parlé hier de Kenji Girac. Ils n'ont pas parlé du discours parce qu'il n'y avait pas une formule qui clash. Et donc évidemment, c'est la limite de ce discours, mais je pense que c'est un discours de très haute volée.
Thomas Porcher.
La fin de l'Europe libérale, j'ai pas entendu le président nous dire que c'est la fin du marché unique. Parce que vous savez, le marché unique, c'est quand même la concurrence des États entre eux, la liberté des capitaux. Il veut même renforcer ça, puisqu'il a parlé d'un marché des capitaux unifié, c'est-à-dire d'une bourse européenne. Alors là, ce qui est assez marrant, c'est que il y a quand même un reste de son passage à Rothschild, hein, parce que il dit que grosso modo, il veut
dans
financiariser. Oui, il veut encore plus financiariser l'Europe. Alors il y a pas, il veut une bourse européenne. Il dit que on prend pas assez de risques. Il dit que il faut que l'épargne. Il confond vraiment l'investissement dans l'économie réelle et la financiarisation. Vous savez, on a vu en 2008 qu'il y avait une séparation entre l'activité de spéculation financière et l'activité réelle. Visiblement, lui, il croit encore qu'il y a des vases communicants. Et ça, ça me fait un petit peu peur.
Mais il appelle à doubler les investissements publics pour éviter le décrochage de l'Europe.
Oui, très bien. Bah, écoutez, c'est pas la première fois qu'on le dit. Mais ce qu'il faut rappeler sur le bilan, c'est que, en fait, le bilan, c'est une parenthèse. Il a fallu une des plus grosses crises sanitaires pour que l'on fasse de l'achat commun de vaccins, de l'endettement commun, etc. S'il n'y avait pas eu cette crise sanitaire, on en serait resté au même principe de l'Europe. Et aujourd'hui, cette parenthèse se ferme. Et le pacte de stabilité, avec les réductions des déficits, et notamment du déficit structurel, ça revient en force. Et donc l'Europe n'a pas tant changé que ça.
Non, le monde a changé et l'Europe a changé. L'Europe, en fait, depuis 1945, s'est construite. Et ça a permis, on peut en dire, battre à l'infini, mais ça réconcilie les peuples entre eux, ça fonctionne sur le commerce, un marché ouvert sur l'extérieur et la concurrence à l'intérieur du territoire européen pour donner du pouvoir d'achat.
Ça n'a pas changé.
Et ces deux choses ont fondamentalement changé.
Ah bon ?
C'est-à-dire que les États-Unis, la Chine et l'Europe est appelée à ça, à faire remonter les frontières extérieures et à arrêter la politique de contrôle des aides d'État pour essayer... Le monde de l'économie aujourd'hui, c'est plus de frontières, plus de subventions. Et c'est les trois blocs sont en train de faire ça. Et l'Europe est en train de changer, et de fait, si on prend son... J'ai dit les limites de son discours, notamment en politique intérieure. Mais si on prend le bilan depuis le discours précédent, évidemment, énormément de choses ont été entendues. L'emprunt commun, vous l'avez dit vous-même. Vous l'avez dit vous-même, l'emprunt commun.
Mais il a fallu une crise sanitaire. Et je veux dire, ça s'est vite refermé. Hein.
La politique des vaccins.
L'achat commun de vaccins, la protection des
frontières. La France qui a pris la main sur le refus des voitures, des subventions aux voitures chinoises. C'est des changements considérable.
Je cite le président de la République, il disait hier, je suis favorable à la poursuite du marché unique, puisque parliez Thomas, dans des secteurs qui étaient jusqu'à présent ignorés par celui-ci, l'énergie, les télécommunications et les services financiers.
Non, alors déjà, je voudrais quand même rebondir un peu sur ce qu'a dit Dominique. Moi, j'aimerais bien prendre un élément comme ça et dire l'Europe a changé. Je veux dire, c'est comme si on disait en 2008, l'Europe a changé, il y a eu un plan de relance. Oui, il y a eu un plan de relance pour répondre à une crise financière. Et ça s'est tout de suite refermé, il y a eu 10 ans d'austérité après. Donc vous voyez, c'est très simple de faire ça. Et puis j'aimerais bien être aussi, moi, toujours dans le sens du vent. C'est-à-dire que la souveraineté, elle a été mise en avant il y a très longtemps par beaucoup de gens. Vous savez, quand il y a eu le non à la Constitution, il y avait un conseiller d'État, Yves Salès.
En 2005.
Il y avait un conseiller d'État, Yves Salès, qui était professeur à Sciences Po d'économie européenne, qui a écrit un livre pour une autre Europe, ou l'Europe que nous voulons, où là il parlait de souveraineté, il parlait de créer des géants industriels face à l'agressivité des États-Unis. Et à l'époque, il y a beaucoup de gens et beaucoup de journaux qui disaient « Ouh là là, c'est un retour au nationalisme, etc. » Et maintenant, les mêmes qui disaient ça vous disent « Ah oui, l'Europe est en train de changer, c'est génial. » J'aimerais bien, moi, parfois, avoir rappeler qu'il y a des gens qui ont eu des pensées contracycliques à un moment, et que c'est toujours très simple d'être dans le sens du vent.
Dominique,
je vois pas très bien, vous voulez... je vois pas très bien. Moi, ce que je regarde, c'est les commentaires des presses italiennes et allemandes ce matin, qui disent que, notamment la presse allemande, l'éditorialiste du Handelsblatt, Gregor Wachinski, qui écrit ce matin, manifestement à Paris, il y a une vision de l'Europe que le chancelier Scholz n'a pas. Le chancelier Scholz, dit-il, est sur le monde d'hier. Emmanuel Macron est plutôt sur le monde de demain, malheureusement. C'est-à-dire que quand les États-Unis ne jouent plus le jeu du commerce
mondial.
Ils
ne l'ont jamais joué, Dominique.
Il y a une différence considérable. Attendez,
Le Buy American Act, ça existe depuis un an ou ça existe depuis... ça a toujours existé. Le Buy American Act, ça existe depuis un an, ça a toujours existé.
Quand vous avez le protectionnisme qui a été mis en place successivement par Donald Trump puis par Joe Biden, c'est un monde qui a changé. Quand la Chine ne se considère plus aujourd'hui comme un marché accessible au reste du monde, ça c'est nouveau. Il y a 10 ans, tout le monde se précipitait vers la Chine. Tout le monde se disait, c'est un marché fantastique. Aujourd'hui, la Chine s'est refermée. Donc l'Europe est en train de s'adapter à ça. C'est compliqué parce que Berlin et Paris n'ont pas la même opinion là-dessus, encore clairement. Et évidemment, la puissance économique de la France n'est pas tout à fait celle de l'Allemagne. Mais on voit bien qu'il y a des choses qui sont en train de changer. Alors, quand Emmanuel Macron en revanche, il y a quelque chose qui m'a surpris, et à mon avis, ça ne marchera pas. Quand il dit il faut une préférence européenne pour les achats d'armement. Voilà, ça fait un petit peu de bruit. Ouais. Il faudrait que tous les pays européens achètent, en gros, les armements français. Là, on est à la limite de son raisonnement, parce que c'est vis-à-vis de Donald Trump, s'il était réélu, c'est un permis de tuer l'OTAN. C'est-à-dire, Donald Trump pourra arriver à dire « Attendez, vous voulez absolument qu'on achète des armements français et les pays européens ne vont plus acheter les armements américains. Ben écoutez, les amis, débrouillez-vous. » C'est ça qu'on va entendre. Donc, on est dans des contradictions, on est dans des limites.
Alors, Macron a peut-être une vision française, si j'en crois Dominique, mais après, Bruno Le Maire, en tous les cas, sur la réduction des déficits, il a une vision très allemande. Et ça, il faut le dire aussi qu'il y a quand même un écart entre les deux. Il y a Macron qui nous dit qu'il faut doubler les investissements, puis il y a Bruno Le Maire qui nous dit qu'il faut réduire les déficits comme un malade. Donc là, je ne sais pas, il faudrait qu'ils s'accordent, parce qu'ils sont Bruno Le Maire fait partie du gouvernement d'Emmanuel Macron. La deuxième chose, c'est que
les États-Unis, politique d'austérité en France, vous venez de faire rire toute l'Europe.
Croyez-moi, il y a des mesures qui sont passées, qui sont plutôt à l'inverse de ce qu'a dit de ce qu'a vanté Emmanuel Macron. La deuxième des choses, c'est sur les États-Unis. Les États-Unis, ils ont toujours été protectionnistes. Il y avait un économiste qui s'appelait Monsieur Fitoussi. Je ne sais pas si vous l'avez eu. Il était prof à Sciences Po. Très bon économiste.
Jean-Paul Fitoussi.
Voilà, dans les années 90, il a dit une phrase très intéressante, je vais vous la dire. Il a dit « Les États-Unis sont les plus grands producteurs de doctrine au monde, mais à usage extérieur. » Vous voyez, parce que les États-Unis ont toujours été protectionnistes.
Mais comment est-ce que vous avez reçu l'appel au protectionnisme lancé par Emmanuel Macron
hier? Mais moi, ça me fait rire. Ça me fait toujours rire, moi, les gens qui découvrent le monde. J'ai trouvé qu'il y avait une très grande naïveté. Par exemple, quand il a dit...
Une naïveté de la part du président de la République.
Je vais vous dire, quand il a commencé à nous dire déjà, nous avons cru que les matières premières étaient illimitées. Alors, je ne sais pas, si, je veux dire, ça fait 20 ans que les gens en parlent, des gens très intéressants comme Jean Covici,
Thomas...
et d'autres. Quand il a dit, nous découvrons qu'il y a une géopolitique des matières premières. Excusez-moi, la Chine a commencé à arriver en Afrique il y a plus de 20 ans.
Tout le monde
s'en est rendu compte. Alors lui, s'il s'en rend compte il y a 2-3 mois, je ne sais pas quoi dire, moi.
Naïveté, Dominique Seux ?
C'est juste une question de débat. Je ne comprends pas très bien, Thomas, si vous reprochez à Emmanuel Macron d'avoir tort ou de venir tardivement sur vos propres positions. C'est légèrement contradictoire. Il faut choisir, ou une autre position. Quel est, au fond, le reproche que vous lui faites? On peut lui faire 1000 reproches, il n'y a aucun doute là-dessus, mais le mot important, encore une fois, c'est que le monde est en train de changer à vitesse grand V. Et quand vous dites le marché unique, il y a eu deux rapports importants, on ne va pas ennuyer les auditeurs avec ça, mais il y a eu deux rapports de deux Italiens, Mario Draghi et Enrico Letta, qui ont décrit les difficultés, les limites de notre marché unique, avec un exemple extrêmement concret, là, qui peut parler à tout le monde, c'est que aux États-Unis, vous avez 4 opérateurs téléphoniques, en France, vous en avez une cinquantaine ou une centaine. Et donc, la concurrence qui a poussé vers les prix toujours plus bas nous a empêché de construire des géants industriels qui soient capables de rayonner dans le monde entier, dans un certain nombre de secteurs.
Et donc, c'est
un changement de pied. C'est un changement de pied qui est
en même temps. C'était intéressant de voir le président de la République dire qu'il fallait déroger à l'orthodoxie financière et budgétaire. Vous parliez de Bruno Le Maire. Ce vendredi, Fitch et Moody's doivent noter la France. Ce sera le verdict des agences de notation. À propos de la dette, du déficit, ça vous inquiète, pari
que dégradé ou pas, la France reste encore très attractive. Après, je vais dire une dernière chose quand même pour finir, c'est que, vous savez, les grands discours comme ça, heureusement qu'il y a encore des gens comme Dominique qui y croient. Moi, je me souviens de...
Attendez,
la stratégie de Lisbonne, vous savez c'est quoi la stratégie de Lisbonne en 2000, les conclusions de la stratégie de Lisbonne, écoutez ça, vous allez tous rire. L'économie de l'Europe doit devenir en 2010 l'économie de la connaissance la plus compétitive au monde, capable d'une croissance durable, du plein emploi et d'une grande cohésion sociale. C'était l'objectif 2010. Donc quand je vois les objectifs 2030, excusez-moi, j'ai envie de rigoler.
Dominique Seux, pour le coup, vous pouvez répondre à la question du verdict des agences de notation, votre pari ?
Oui, mon pari, mais je n'ai pas d'informations, c'est qu'il y aura effectivement une baisse de la note, on va passer de 17 à 14.